Et à 7h42, on retrouve l'interview de Matin Première. Mertrouane, vous recevez ce matin l'économiste Geert Nuls.
Bonjour Geert Nuls.
Bonjour.
Vous êtes fondateur, dirigeant d'Econopolis et l'un des économistes les plus écoutés, les plus influents de Belgique. L'économie chinoise se contracte comme jamais. Depuis 25 ans, le FMI revoit ses prévisions de croissance mondiale à la baisse. Et c'est l'ouverture du forum de Davos consacré à la 4e révolution industrielle. On va d'abord parler de ça, celle de la numérisation, de la robotisation et de plusieurs millions d'emplois supprimés, 5 selon une dernière estimation du dirigeant du Forum économique mondial qui organise Davos. Franchement, est-ce que cette 4e révolution industrielle, Geert Nuls, c'est une bonne nouvelle?
Ça dépend probablement aussi de votre éducation, parce que je vois que l'optimisme sur Twitter est très élevé.
Oui, de ceux qui maîtrisent la technologie.
Voilà, ceux qui maîtrisent la technologie trouvent que c'est une bonne chose. J'ai fait un petit sondage hier soir, et alors on croyait que ça allait créer des emplois. Je crois que c'est surtout chez les mieux éduqués, mais que en net, j'ai des doutes sur l'aspect positif, et je crois que la robotisation va en fait détruire énormément de jobs, enfin des boulots comme on les connaît aujourd'hui, et que c'est un défi pour les économistes aussi, de réfléchir comment absorber tout cela et créer de nouveaux emplois propres à, disons, la 4e révolution industrielle. Est-ce que c'est alors dans l'économie de partage, le sharing economy, comme on dit aux États-Unis, est-ce que ça n'augmente pas le risque d'exploitation? Est-ce qu'on va prendre plus de temps pour le loisir? Est-ce qu'on va travailler moins? Enfin, tout ça sont des défis intellectuels pour les économistes, parce que ça va déstabiliser en fait le monde économique dans lequel on vit.
Oui, ouais, voilà. Ouais. Mais si on regarde les précédentes révolutions industrielles, la première, la deuxième, la troisième, la machine à vapeur, l'électricité, etc., à chaque fois ça a créé de la croissance et à chaque fois il y a eu des emplois détruits, mais des nouveaux créés qui étaient plus importants que ceux détruits. Pourquoi est-ce que ici ce serait pas le cas?
Oui, jusqu'à présent ça a été une histoire très très positive. Création des destructifs, mais surtout création. Comme Schumpeter disait, l'économiste. Pourquoi c'est plus difficile maintenant? Parce que les transformations dans le passé se faisaient sur une période beaucoup plus longue. C'était des décennies, et avec l'espérance de vie à cette époque-là, c'était en fait une génération. On faisait une génération pour transformer l'économie. Maintenant, ça vient sur quelques années. Et ça va tellement vite que c'est très difficile de s'adapter.
Oui.
Et alors quand le changement est tellement brutal, ça a des répercussions sur notre société. Et alors si on déstabilise la société, ça crée énormément d'angoisse, de peur chez les gens et de difficultés pour changer en fait certaines choses, comme l'éducation. L'éducation, ça prend énormément de temps.
Ouais, pour former toute une génération. Vous avez écrit dans un article récent que les dieux de la Silicon Valley, donc Apple, Tesla, etc., ne sont pas immortels. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas un modèle durable?
En fait, il y avait certaines réflexions dedans après un petit voyage dans le Valley. C'est que les dirigeants de ces sociétés rêvent de leur immortalité. Il faut regarder les CEO et les gourous.
Les Elon Musk, notamment, le dirigeant de Tesla, etc.
Elon Musk est encore un cas différent. Je crois que c'est un type assez équilibré. Mais
les autres délirent, ou quoi? C'est ça que vous voulez dire?
Les autres délirent et pensent qu'ils vont devenir 150, 170 ans, peut-être immortels, parce qu'avec le 3D printing, etc., on va remplacer des organes, plein de choses qui sont usées, presque comme dans une voiture, on change les pneus. Et ils rêvent alors qu'ils ne vont jamais mourir. Et ça crée en fait une atmosphère assez bizarre où on pense qu'on est au-dessus du monde, qu'on dépasse en fait les êtres mortels, qu'on est une catégorie différente. Et je crois que ça crée en fait un peu de risque aussi, qu'ils croient qu'ils peuvent changer le tout, le monde.
Ils se voient comme des messies où ils ont une sorte de mission de changement de la planète, de changement du monde. Ils ont ça en eux quelque part, une série de ces gourous.
Oui, et réfléchissent aussi sur le déménagement de certains êtres humains sur des planètes externes.
Le transhumanisme.
De coloniser Mars, etc. Bon, il y a une réflexion là qui dépasse en fait la vie quotidienne et qui, eux, pensent que ça doit être fait, cette discussion, entre eux, entre ceux qui ont en fait dépassé toutes les frontières qui existaient avant, par la technologie. Et c'est pour moi aussi un peu un risque que ils pensent que la société, en fait, c'est eux qui doivent la former.
Est-ce qu'une partie de la solution, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, il va peut-être falloir travailler moins, plus de loisirs. Est-ce que le partage du travail, du temps de travail qui est évoqué par les syndicats, mais on en parlait encore récemment au sein de Bruxelles Propreté avec le ministre de l'Emploi à Bruxelles, Didier Gozon, est-ce que c'est une piste pour faire face à la destruction des emplois liés à la quatrième révolution industrielle? C'est qu'on travaille moins.
Mais on le fait déjà. Et on travaille moins qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Alors c'est déjà une évolution qui a été implémentée, mais je crois que ça ne suffira pas. Et il y a un aspect que l'on ne peut jamais remplacer, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'économistes pensent aussi sur, disons, une allocation universelle, basis income, revenu de base pour tout le monde. Mais le vrai problème, c'est que l'être humain veut être impliqué dans un processus de création, veut être impliqué dans le travail. Le bonheur vient par aussi le travail, d'être impliqué, l'interaction humaine. Et c'est pour cette raison que la robotisation, par exemple, enlève pas mal de l'aspect humain dans l'économie. Moi, je préfère de très loin d'être servi par quelqu'un au guichet
qu'avoir un automate.
Par un automate. Et alors, je crois que c'est un aspect sous-estimé, que ce n'est pas juste une question de remplacer le boulot, mais que l'interaction humaine change en fait la société et qu'il faut réfléchir dans cette direction aussi. Ça ne suffit pas de donner à quelqu'un qui a perdu son boulot par un robot, donner une allocation. En fait, ça enlève en fait l'aspect humain de son interaction avec d'autres êtres humains. Et je crois que ça, c'est le vrai risque que je ne vois pas au World Economic Forum à Davos, parce que c'est très technique, ce sont des statistiques. 5 millions d'ailleurs, ça ne représente rien sur des milliards et des milliards de gens impliqués dans le travail sur le plan mondial. C'est un détail, disons. Probablement, l'impact sera
beaucoup
plus important, et à mes yeux, beaucoup plus négatif pour la majorité des gens, alors que certains vont probablement en bénéficier.
Et ça veut dire que ça, c'est le politique, puisque là, vous dites, et vous n'êtes vraiment pas le seul à le dire, qu'il va y avoir une grosse destruction de masse d'emplois, c'est au politique de réfléchir au travail, à l'organisation sociale, aux interactions humaines que vont impliquer tous ces changements de la quatrième révolution industrielle.
Oui, je crois que vous avez bien résumé le tout. Je vous donne un exemple, parce que ce n'est pas uniquement chez nous, en Europe, aux États-Unis, mais en Chine. Foxconn, qui fabrique entre autres les iPhones, qui emploie des dizaines de milliers d'ouvriers, eh bien, ces ouvriers sont aujourd'hui en train de construire des robots qui vont remplacer leur propre boulot. Alors, bon, comme ils ne sont pas stupides, ils réfléchissent à ça, ils font des grèves pour se résister. Mais c'est en fait ce monde fou dans lequel on vit, où des robots sont en train de remplacer des milliers d'emplois.
Alors, il nous reste une minute et je vais vous demander un défi. Geert Noels, la croissance des pays émergents se tasse en Chine. Elle est la plus faible depuis 25 ans. Le FMI s'inquiète beaucoup. Le pétrole est très bas. En une minute, qu'est-ce qui est en train de se passer, Geert Noels?
Éconochoc, 2008.
C'est le titre de votre livre.
Oui. Ouais. Bon, c'est un changement très brutal et on a fait trop de choses, on a dépensé trop, on a fait trop d'efforts pour garder le vieux modèle d'avant 2008. Et en fait, c'est de l'argent gaspillé, je dirais. Il faut réfléchir sur le monde de l'avenir. Et maintenant, on se rencontre de nouveau, 8 ans après le début de ce grand changement. En fait, la vieille économie ne reviendra pas. Et alors, ce que les banques centrales essayent de faire, c'est garder le vieux système financier, par exemple, mais jusqu'à présent, on essaye en fait de garder le vieux système économique également, et à mes yeux, c'est impossible, il faut réfléchir sur l'avenir.
Ouais, 2016, année de choc économique.
Aftershock, Mais en fait, la même chose qu'en 2008. Maintenant, après encore plus de dépenses publiques, plus, le monde a encore beaucoup plus de dettes qu'en 2008. Alors, ce n'est pas devenu plus facile qu'en 2008. En fait, c'est probablement plus difficile. Mais le moment de la vérité se rapproche.
Merci beaucoup Gert Nouls. Et on poursuit sur le thème de l'économie ce matin à l'occasion de l'ouverture de Davos avec Bruno Coleman dans une heure qui viendra répondre à la question matin première. Riche, toujours plus riche, pauvre, toujours plus pauvre. Comment pouvons-nous inverser la tendance? Vous pouvez réagir au 02 737 33 33 et par courriel matin@rtbf.be. Tout de suite, c'est votre café serré.